Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous comme tous les matins. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons un débat sur la lutte contre la mendicité des enfants talibés avec en toile de fond l'opération Coup de poing lancée ces derniers jours au Sénégal. Sur place, les ONG estiment à 80 000 le nombre d'enfants victimes de ce fléau. Ils ont entre 4 et 15 ans. La grande majorité d'entre eux fréquentent des écoles coraniques, mais au lieu de recevoir une éducation religieuse, eh bien ces enfants sont exploités par les responsables de ces établissements. Du coup, le gouvernement a lancé une opération visant à retirer les enfants de la rue. Les autorités ont également annoncé des amendes et des peines de prison pour ceux qui font mendier les enfants. Reste à savoir, et c'est tout le débat ce matin que nous lançons, si cette mesure suffira à éradiquer le phénomène qui concerne d'ailleurs de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, comment mettre fin à cette exploitation des enfants? Quelle est l'ampleur d'ailleurs de ce fléau dans votre pays? Vous nous rejoignez, vos commentaires, vos témoignages, 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Et comme tous les matins, c'est promis, j'en lirai quelques-unes pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Plusieurs questions nous sont arrivées ces derniers jours sur les négociations de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Francis, bonjour.
Bonjour Juan et à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Pointe-Noire au Congo, nous vous écoutons.
Oui Juan, le 23 juin dernier, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont signé à Cuba un accord de paix. J'ai deux questions à ce sujet. Quels sont les défis à relever pour que cet accord soit effectif? J'ai vu que la population va être consultée sur cet accord par référendum. Comment cela va-t-il se dérouler? Et que se passera-t-il si jamais le peuple vote contre le principe de cet accord de paix?
Ah, excellente question, effectivement. C'est vrai que le gouvernement souhaite demander à la population si elle accepte ou pas cet accord de paix. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 3 ans et demi de négociations. Et enfin, un accord conclu effectivement il y a quelques jours à La Havane, à Cuba. Un accord de cessez-le-feu définitif, c'est-à-dire que l'accord de paix global n'est pas encore signé, il va falloir encore patienter. Pourquoi faut-il attendre encore quelques semaines, voire même plusieurs mois, avant d'aboutir à cet accord de paix?
Alors, normalement, l'accord de paix final devrait être signé le 20 juillet. C'est ce qu'avait annoncé le président Santos.
Donc, 20 juillet, c'est le jour de la fête nationale en Colombie.
C'est en plus le jour de la fête nationale en Colombie, donc c'est très important symboliquement. En fait, c'est un accord en 6 points. Et donc, ce qui a été signé le 23 juin, c'est le point 3. Et le point 3 était le plus problématique. C'était effectivement cet accord sur le cessez-le-feu bilatéral et définitif. Sur aussi le désarmement, donc le cantonnement des FARC, des guérilleros, il y en a à peu près 7000. Hein. Il va falloir qu'ils se concentrent. Il y a des zones de concentration qui ont été accordés, enfin sur lesquelles ils se sont accordés avec le gouvernement. Donc il y a 23 zones dans le pays et 8 campements. Donc c'est vers ces zones-là que tous les 7000 devront se diriger. Il y aura des bases donc de cantonnement. L'ONU ira donc vérifier le cessez-le-feu, commencer donc toutes les opérations de désarmement. Il y aura aussi des formations qui seront données donc qui seront proposées pour la réinsertion ces personnes dans la vie civile. Enfin voilà, c'est tout un système qui va se mettre en marche et donc ça fait partie effectivement des défis à relever. Pour que cet accord, même c'est le point 3, mais le point 3 de l'accord cessez-le-feu définitif ne se mettra à exécution, ne sera en vigueur que à partir du moment où l'accord global, donc les 6 points complets, seront donc signés à La Havane. Et ça sera à partir normalement du 20 juillet.
Donc dans 3 semaines, il reste encore des choses à négocier ou pas?
Alors, il y a des choses à négocier et c'est sur la mise en application de cet accord global. Hein, donc, c'est le point 6 de l'accord. Mais il y a aussi d'autres défis. Hein. Donc, dans la question que posait Francis, effectivement, les défis pour que cet accord de paix global, hein, mmh. ensuite, soit respecté, eh bien, c'est que les guérilleros rentrent effectivement dans la vie civile, hein, qui n'aillent pas à grossir les rangs d'autres guérillas, comme le LN, avec lesquels, d'ailleurs, le gouvernement a commencé des négociations, mais qui sont pour l'instant gelées, ou de groupes criminels qu'on appelle les BACRIM, qui sont donc des bandes criminelles organisées, souvent liées au trafic de drogue, à l'extorsion, aux mines illégales, hein, il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi ce défi que tous les déplacés, il y a quand même près de 7 millions de déplacés en Colombie, eh bien, qu'ils puissent retourner peut-être chez eux. Et ça, ça va être extrêmement compliqué et très, très difficile.
En tout cas, tout semble aujourd'hui indiquer que ce processus de paix est désormais irréversible. Les FARC s'engagent véritablement, ils le disent. Alors, on les croit évidemment qu'ils souhaitent définitivement déposer les armes. Plus question pour eux de continuer à combattre.
Voilà, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Il y a eu une annonce très importante hier. Ce n'était pas vraiment une annonce, mais dans une interview donnée à Prensa Rural, c'est un média assez proche des FARC, le chef des FARC, Timoleon Jiménez, alias Timochenko, a donc dit qu'il avait donné l'ordre de ne plus à toutes ses troupes, partout, de ne plus recourir à l'extorsion aux raquettes. Il a assuré d'ailleurs que ses troupes ne recrutaient plus depuis 3 mois. Juste une petite précision aussi. Un autre défi très important, hein, ça va être que à partir du moment où il y a ce désarmement, donc cette paix a priori avec les FARC, il va falloir aussi, et ça c'est un énorme défi qui attend la Colombie, c'est que les institutions, que l'État se réapproprie tous ces espaces, toutes ces zones qui ont été délaissées pendant plus de 50 ans et qu'ils évitent donc de les laisser à la portée aussi des autres groupes criminels. Donc il va falloir aussi apporter une sécurité aux populations qui vivent dans ces zones-là.
Ouais, en quelques mots, Véronique Guémard,
quid des populations pauvres.
Hein. Pauvres, évidemment, qui sont les populations rurales directement concernées par cet accord de cessez-le-feu. Quel avenir pour le référendum ? Déjà, est-ce que la Cour constitutionnelle a tranché, puisque le gouvernement a saisi cette Cour ? Et si jamais référendum il y aura, que va-t-il se passer si la majorité de la population vote contre cet accord de paix, ce qui est plausible d'ailleurs,
hein. Oui, tout à fait. Alors, oui, a priori, il y aura un référendum. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est accordé. Alors, le problème, c'est effectivement est-ce que tous les gens voteront oui ou pas ? Est-ce que la population est mobilisée sur ce référendum ? Eh bien, pas tant que ça. Et c'est ça qui est étonnant. Mais il faut dire que la Colombie est un pays éminemment urbain. Hein, et que finalement la guérilla était vraiment concentrée dans les zones plus rurales. Du coup, les gens sont moins concernés. Ils en ont franchement assez de cette guerre. Est-ce qu'ils vont se déplacer aux urnes pour voter effectivement
sur ce référendum ? Donc il risque d'y avoir un fort taux d'abstention.
Évident. Surtout qu'il y a l'ancien président Álvaro Uribe et son parti Centre Démocratique, hein, qui était contre la paix, qui ne voulait absolument pas signer avec cet accord de paix avec les FARC, qu'ils considèrent comme une organisation terroriste, mêlée au trafic de drogue, etc. Et eux font aussi beaucoup de pression pour qu'il n'y ait pas de vote oui au référendum. Et pour l'instant, les sondages donnent 36% pour le oui, mais
ah oui, c'est
ce,
peu.
Ce qui est peu. Mais bon, on peut imaginer que ça va monter avec peut-être la signature de l'accord global qui devrait se faire en deux temps. À la Havane, dans un premier temps, et en Colombie, en grande pompe, avec beaucoup de chefs d'État de tout le continent.
Francis, on a pris le temps de répondre à votre question. Est-ce que vous êtes satisfait des explications ? Vous comprenez mieux tout le processus de paix en Colombie ?
Oui, très satisfait, Juan. Merci beaucoup. Merci.
Eh bien, merci surtout à Véronique Guémard, qui reste dans ce studio. On a encore une question concernant les FARC. Sylvain, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour, RFI. Bonjour, madame. J'ai écouté, il y a, comme mon prédécesseur, il y a quelques jours, sur les ondes de RFI, une artiste française de Montpellier avait combattu auprès des FARC.
Oui.
Et donc, je voudrais savoir comment elle fait pour les rejoindre. Et puis, quel a été vraiment son rôle pendant ce processus de lutte, d'indépendance ou de combat, hein. Et puis bon, déjà avec la signature, la première signature, sinon la négociation qui a eu lieu à La Havane, donc il y a un accord de paix en vue déjà.
Oui.
Et quel va être son statut après après la signature.
Alors, Véronique Guémard, la semaine dernière, RFI a révélé en exclusivité l'existence d'une Française dans les rangs des FARC. D'ailleurs, cet entretien, on peut l'écouter encore et toujours sur notre site internet, entretien dans lequel elle détaille longuement les raisons de son engagement. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne connaît pas son vrai nom à cette Française.
Non, Nathalie Mistral, c'est un alias. D'ailleurs, toutes les personnes de la guérilla ont des alias. Quelquefois, on connaît leur véritable nom et parfois non. Donc là, son alias, c'est Nathalie Mistral. Mistral, ça fait un peu sud de la France, bon, effectivement.
Elle vient de Montpellier, elle est originaire de Montpellier, donc du sud de la France.
Voilà, elle est partie donc au début des années 2000. Elle est d'abord allée au Mexique pour rejoindre, a priori, donc la lutte du sous-commandant Marcos. Elle était très attirée par la poésie du sous-commandant Marcos dans le Chiapas pour rejoindre donc dans l'armée zapatiste. Et puis, elle était un petit peu déçue entre le décalage de cette poésie, de cette envie de changer les choses et finalement que sur le terrain ça ne bougeait pas beaucoup, donc elle est partie plutôt vers la Colombie et là c'était justement la période de l'échec des accords de paix de San Vicente del Caguán, donc c'était en 2001-2002. Oui. Du coup elle a approché la guérilla, elle a mis un an pour les approcher, pour entrer en confiance, etc. Et finalement il y a un chef de guérilla qui lui a dit, bon, si tu veux, tu peux rester. Et donc,
elle a été formée, elle a appris à manier les armes, elle s'est battue. Quel a été son rôle toutes ces années au sein des FARC ?
Elle n'était pas soldat, d'après ce qu'elle dit. Après, on se fie à son témoignage, on n'a pas toutes les informations, mais d'après ce qu'elle dit, elle avait plutôt un rôle d'organisation. Elle allait et venait en Colombie et vers l'extérieur pour faire plutôt de l'information au niveau international. Voilà. Et puis, on a peu d'informations. On sait ce qu'elle nous a dit. Enfin, ce qu'elle a dit, donc, à RFI. Voilà. Alors, toute la question, effectivement, ça va être quel sort va lui être réservé ?
Quel avenir ?
Quel avenir ? Et je pense que cette rencontre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la journaliste qui a fait ce reportage a été envoyée dans ce campement par les FARC, parce que c'est pas par hasard qu'elle y est allée. On lui a dit,
vous pouvez aller à tel endroit. Il faut expliquer aux éditeurs, lorsqu'on fait une demande, quand on est journaliste et qu'on demande à rencontrer des membres de FARC, ce sont les FARC qui décident dans quel camp vous allez.
Exactement. Donc, cette journaliste s'est retrouvée dans ce camp-là. Et quand elle est arrivée, qui est venue à sa rencontre ? C'est une Française, Nathalie Mistral. Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'était pas pour dire... Eh bien voilà, on veut faire connaître au monde aussi que nous avons des combattants étrangers et que les autorités colombiennes peut-être en prennent la mesure et parlent du sort qui leur sera réservé. Parce que pour l'instant, les accords de paix, il n'y a rien sur les combattants étrangers. Donc c'est certainement une façon d'attirer l'attention.
Nathalie Mistral est la deuxième européenne identifiée dans les rangs des FARC. Il y a une première, elle est d'origine néerlandaise.
Elle est néerlandaise
et elle a participé ces dernières années aux négociations de paix.
Oui, tout à fait. Et en fait, son existence a été révélée parce que il y a eu une attaque justement de l'armée contre un campement des FARC. Donc les FARC sont partis en quatrième vitesse et elle a laissé derrière elle son journal. Et l'armée est tombée sur son journal. Et c'était en 2007. Et du coup, c'est vraiment par hasard que l'armée a su qu'il y avait des combattants étrangers. Et comme elle, son existence avait été révélée, ensuite elle a été soustraite un petit peu de ces zones-là et montrée directement à La Havane en tant que négociatrice des FARC.
Merci beaucoup Véronique Guémard de toutes ces explications. Si vous souhaitez écouter ou réécouter justement l'entretien exclusif accordé à RFI, entretien de Nathalie Mistral, rendez-vous évidemment sur notre site internet www.rfi.fr. 10h24 à Paris, on avait prévu beaucoup de questions ce matin, on en prendra moins que prévu, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera demain, on sera de retour, c'est promis. On accueille Désiré, alors Désiré qui nous attend depuis hier, puisqu'hier on l'avait prévu dans l'émission. Désiré qui a des questions sur le projet très controversé de construire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est près de Nantes, dans l'ouest de la France. Bonjour Désiré.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé au Togo et je vois que cette actualité vous intéresse.
Oui, je suis à Lomé. Le résultat du référendum est favorable à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, à Paris. J'aimerais savoir quels sont les... Du coup, j'aimerais savoir première question.
Allô? Oui, on vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir est-ce qu'on peut parler de changement de cap de la part de la population?
Oui, d'autant que 55% des électeurs ont dit oui à ce projet d'aéroport. C'est une question effectivement intéressante. Désiré, raccrochez pas, je sais que vous en avez une deuxième. Julien Durand est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 55% des électeurs qui disent oui à ce projet très controversé, c'est un oui massif. Y a-t-il un changement au sein de la population locale qui finalement accepte cet aéroport?
Disons que d'abord, c'est pas un référendum, il faut être clair, c'est une simple consultation, donc ça ne donne qu'un avis. Et par rapport au changement de cap de la population, après, ça dépend quelle lecture on peut en faire. Nous, ça nous conforte que nous avons fait une bonne campagne d'explication, puisque sur les secteurs qui sont impactés par l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique, c'est une toute petite tendance qui se dégage pour le transfert. Donc la population n'est pas si effrayée que ça par l'aéroport actuel. Et une grosse surprise sur la population nantaise, avec 100 voix d'écart pour le oui, c'est très peu, alors que c'était là que s'est exercée la pression de tous nos adversaires en stigmatisant le bruit, la sécurité et la casse qui a fait suite dans la ville de Nantes par rapport aux dernières manifestations. Donc nous avons l'écueil des Nantais a été évité pour nous, et je ne parle pas des résultats totalement en défaveur du transfert quand toute la population autour de Notre-Dame-des-Landes a très large majorité, puisque c'est plus de 70% qui
alors,
ne veulent pas.
Faut dire à nos auditeurs à travers le monde, c'est vrai que la grande majorité des communes qui sont directement touchées par la construction de ce futur aéroport se sont prononcées contre. Mais la majorité des électeurs, de ceux qui étaient donc appelés à se prononcer pour ce référendum, même si vous récusez ce terme, c'est quand même un référendum, la majorité a dit oui au référendum. C'est quand même une victoire pour le gouvernement qui, depuis des années, tente de construire cet aéroport.
Oui, mais ça ne résout pas les problèmes, puisque nous sommes encore avec des recours juridiques, loi sur l'eau et destruction des espèces protégées, qui sont en appel auprès de la Cour d'appel administrative de Nantes. Donc la question aujourd'hui, c'est lequel est le plus fort? Est-ce que c'est cette consultation ou les recours juridiques qui ont force de loi environnementale? Et aussi, la réponse vis-à-vis de l'Europe n'est pas encore faite. L'État français doit rendre une copie qui n'est pas conforme aujourd'hui aux yeux de l'Union européenne sur l'impact environnemental du projet global, puisqu'on ne parle que du site aéroportuaire et du bord routier, et que l'Europe veut une vue globale des impacts environnementaux en y ajoutant le train-tram, la ligne LGV que certains réclament entre Nantes
la ligne grande vitesse, le train grande vitesse. Je vous interromps parce que Désiré a une dernière question, et comme ça fait plusieurs jours qu'il nous a appelé et qu'il patiente, malheureusement on n'a pas eu l'occasion de le passer à l'antenne plus tôt. Désiré, rapidement.
Oui, que vont devenir les derniers occupants, c'est-à-dire les ADIT et les agriculteurs du terrain destiné à la construction de cet aéroport?
Alors, les occupants, c'est vrai qu'il y a du monde qui occupe le terrain depuis plusieurs années. Julien Durand, ce sont vos amis, si vous me permettez l'expression. Vont-ils rester, malgré ce vote, sur place, sur ce terrain?
Pour le moment, il y a deux catégories. Il y a des jeunes qui sont arrivés pour nous aider à défendre cette zone-là. Donc, ils sont sur place, ils n'ont pas envie de partir. Nous, on n'a pas envie qu'ils partent non plus. Et puis, autrement, il y a 11 familles dites, entre guillemets, historiques, où ce sont des habitants et dont 4 familles de paysans qui sont toujours en activité sur la zone. Donc pour le moment, personne n'a envie de partir.
Ouais. En tout cas, ce lieu qu'on appelle dans le jargon technique la ZAD sera évacué. Manuel Valls a été très clair. Il a même annoncé que les travaux commenceront à l'automne. En tout cas, à vous entendre, Julien Durand, on voit bien que la polémique, la controverse est loin d'être close. Merci d'avoir été avec nous, Julien Durand, porte-parole de l'Association citoyenne intercommunale qui proteste donc contre la construction de cet aéroport. Reste avec nous dans un instant le journal, on retrouve la rédaction et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour. À tout de suite.
Priorité santé.